On peut d'abord remarquer que le mot dignité est complètement absent du projet de loi. Le projet de loi n'utilise pas du tout ce terme. Alors, la dignité nous semble menacée à plusieurs niveaux. D'abord au niveau de la procréation, des nouvelles modalités de la procréation, puisque la dignité de la personne comprend le respect des liens fondamentaux par lesquels la personne vient au monde, ses liens parentaux, et respecter des êtres humains qui sont doués de dignité, c'est ne pas les instrumentaliser, c'est donc respecter ces liens fondamentaux et du coup faire disparaître la personne du père ab initio, c'est-à-dire dès le commencement, dès l'acte même d'engendrement par les techniques, ou de procréation par les techniques. C'est un acte de puissance qui nous paraît désordonné, qui est exercé sur l'enfant, qui est contraire à sa dignité. On pourrait dire de quel droit l'État ou ce nouveau dispositif médico-juridique le prive de l'ascendance paternelle, et cela même si la levée de l'anonymat ne résout évidemment pas cette question.
Concernant la PMA, la procréation médicalement assistée, dont il est beaucoup question dans ces débats, notamment pour les couples de femmes, celles-ci disent que, comme l'était finalement la loi sur le mariage pour tous, c'était corriger une forme de discrimination. Est-ce que ces lois ne vont pas créer de nouvelles discriminations ?
C'est une ligne d'argumentation, effectivement. D'abord, le terme lui-même ne paraît pas adapté, si vous voulez. Est-ce que c'est discriminer quelqu'un de ne pas accorder un nouveau droit à des personnes dont finalement leur réunion ne peut absolument pas engendrer d'enfants? Est-ce que c'est une discrimination? Donc le terme lui-même est très contesté. Il a été contesté par le Conseil d'État comme le terme du recours à l'égalité pour ces cas-là. Mais on peut dire par contre qu'il va y avoir de nouvelles discriminations puisqu'il y a des enfants qui ont été privés dès le commencement de référence à un père. Et il se pourrait très bien que dans un avenir, je ne sais pas lequel, mais des enfants se plaignent au niveau du droit et disent « pourquoi vous m'avez privé intentionnellement de père ?» Donc effectivement, il risque d'avoir de nouvelles discriminations, des enfants qui n'auront pas de référence à un père, et sans doute à l'avenir de nouveaux procès.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque dans cette loi bioéthique de détourner la finalité de la médecine? C'est une question aussi que certains se posent, c'est-à-dire qu'on ne soigne plus pour répondre à une volonté curative, mais à une volonté tout simplement individuelle. Quelle rupture cela peut-il engendrer?
Il me semble que la rupture, en fait, elle est amorcée depuis longtemps, au moins depuis le 19e siècle, quand la médecine proclame l'hygiénisme, c'est-à-dire que la préoccupation n'est plus centrée sur la maladie, mais elle est centrée sur la santé et la prévention. Ce mouvement qui est amorcé au 19e, il se poursuit et il atteint, on pourrait dire, une dimension très grande à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1946, lorsque l'Organisation mondiale de la santé définit la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Il y a là une ambition qui me semble utopique de la santé comme état de complet bien-être physique et mental, qui est déjà là, si vous voulez, dans la conception de la médecine. La question est donc non pas seulement la définition de la médecine, qui a des préoccupations plus larges que la pathologie, mais c'est la question d'une médecine qui est inséparable d'une éthique sociale, économique, qui définit des priorités de santé. Et les priorités de santé sont d'abord celles des pathologies les plus urgentes, les plus graves. Donc le grand risque, en fait, de c'est pas vraiment un détournement, mais on peut dire l'accentuation de quelque chose qui était instauré depuis longtemps, risque de nous priver d'une occasion de débattre ou de poser la question d'une éthique sociale, économique, qui définit les priorités de santé, particulièrement en France, au moment où l'hôpital est en crise, les urgences sont en crise, la psychiatrie est en crise, et il faudra bien définir des urgences, des priorités de santé, quand nous ne pouvons pas tout faire.
Quelle voix les catholiques peuvent-ils porter dans ce débat, alors que beaucoup disent que finalement il est déjà un peu joué d'avance et que, par exemple, la PMA sera votée pour notamment les couples de lesbiennes? On a l'impression que, dans l'esprit de certains, les positions de l'Église sont un peu passéistes. Comment faire ressortir l'importance d'un débat porté notamment par l'Église, mais pas seulement par elle-même?
Vous avez raison, les rapports de force sont très nettement en défaveur des positions que défend l'Église. Mais vous l'avez bien souligné, l'Église n'est pas toute seule. Il y a un certain nombre de personnes qui ont le courage de préciser philosophiquement les raisons de leur désaccord. Donc il faut vraiment insister sur le fait que l'Église n'est pas toute seule et que ce n'est pas une question d'opposition entre, on peut dire, les catholiques et la société française. Il y a un certain nombre de philosophes, de sociologues qui s'opposent à cette mesure en argumentant philosophiquement. Alors que peuvent faire les chrétiens? Je pense qu'ils peuvent essayer de réfléchir avec d'autres, posément. Relever aussi dans les avis des autres instances, comme le Conseil d'État. Il avait déjà bien averti dès 1988 qu'il paraissait excessif de donner à une personne la puissance extrême d'imposer à une autre l'amputation de la moitié de son ascendance. Vous voyez, on n'est pas tout seul à proclamer qu'il y a des problèmes. Donc il faut que les chrétiens montrent qu'ils ne sont pas tout seuls. Et puis, il me semble qu'il y a d'autres voies d'action. C'est faire le rapport avec notamment les problématiques écologiques et de montrer en fait que cette mesure de l'assistance médicale à la procréation, elle doit être pensée avec d'autres mesures, si vous voulez, dans un cadre systémique, en montrant qu'il s'agit là aussi des questions d'éthique sociale. Et nous avons à penser autrement aujourd'hui les problématiques de la bioéthique spécifique, donc l'usage des biotechnologies, en lien avec les problématiques écologiques. Et puis, les chrétiens, ben, me semble, surtout rappeler à manifester leur présence auprès des plus faibles, des plus pauvres. Ils le font déjà, ils l'ont fait à travers les siècles. Donc de montrer la cohérence de l'action de l'Église. Et puis quand il s'agit de se manifester, de manifester la résistance du bien et de la question du juste aussi. Les chrétiens ne sont pas d'abord des opposants. C'est des gens qui ont une vision de la société et qui, on pourrait dire, qui est largement en accord avec beaucoup d'autres visions, notamment des problématiques écologiques. Ce que nous dit saint Paul, moi que j'aime à rappeler aussi, parce qu'il y a des chrétiens qui sont un peu désespérés devant ces évolutions, un peu désespérés devant le fait que tout est déjà joué d'avance, saint Paul nous demande d'être vainqueurs du mal par le bien. Des gens qui font le bien et qui montrent là aussi les voies qui leur paraissent les plus justes et les meilleures pour la société tout entière.